Très bien, tout d'abord je tiens à remercier les organisateurs du séminaire, Laura et Laurence qui m'ont invité, qui se sont chargés d'organiser cette séance, bien aussi Télème, au travers de Virginie Babipolin d'ailleurs, parce que je suis chercheur invité en fait pendant cette année ici à Télème, et puis Delphine Mercier, discutante en fait de ce papier. Donc merci à vous tous d'être là. Je suis vraiment très heureuse en fait de pouvoir présenter mon travail. C'est une première fois en fait que je présente ce travail ici en France. J'ai très envie en fait d'écouter vos commentaires, un peu pour sortir de mon cas d'étude et d'avoir un peu des points de comparaison pour avancer dans ma recherche aussi. Donc c'est une présentation qui, j'espère, ne vous paraîtra pas trop longue, mais c'est peut-être un peu le défaut quand on écrit un livre. Je suis en plein dans mon ouvrage, j'ai énormément de données. Donc c'est une présentation que j'évalue environ de 45 minutes. Donc surtout si vous voyez qu'il y avait des longueurs, vous me le dites, de façon à ce que j'avance un petit peu et que je coupe ma présentation. Donc en termes de migration, on connaît plutôt le Mexique pour l'importance présence des Mexicains aux États-Unis. En général, on pense à cette migration en fait économique. C'est comme ça en fait qu'ils sont perçus les Mexicains en fait dans la migration internationale. Et il y a eu d'importantes études sur l'approche transnationale qui ont montré l'importance des liens qui unit les membres des familles mexicaines et mexico-américaines situées de part et d'autre de la frontière. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler en fait de cette migration-là, de cette migration en fait emblématique du Mexique, mais d'un phénomène en fait bien moins connu et du coup beaucoup plus récent, celui de la migration forcée de Mexicains en raison des violences liées au trafic de drogue et de la militarisation de la lutte contre celui-ci. Donc je vais concentrer mon attention sur le nord-est du Mexique. Donc vous voyez sur la carte, ce sont les trois états en jaune, Tamaulipas, en rose, le Nuevo León et le Coahuila en violet. Moi je réside au Mexique dans l'état du Nuevo León, celui qui est au milieu dans le nord-est. Et analyser donc les conditions dans lesquelles ces personnes ont fui, comment ont-elles migré et leurs expériences comme population déplacée aux États-Unis. Donc, à l'opposé des Mexicains, en fait, qui traversaient le Rio Bravo, qui sépare le nord-est du Mexique et le Texas, à la nage, et qu'on appelle donc les wetbacks, c'est-à-dire les épaules, en fait, mouillées, ou los mojados, comme on dit en espagnol, ces migrants forcés, eux, ont traversé la frontière avec des papiers d'identité, avec des passeports et des visas. Eux, ce sont les drybacks, ceux aux épaules sèches, en fait, migrants qui fuient les violences liées au prélèvement d'un impôt mafieux, des séquestres, de la corruption, de l'impunité, mais qui fuient aussi les affrontements qui ont lieu dans les espaces publics au Mexique. Il faut savoir aussi que le nord-est, donc lieu de mon étude de cas, et comme vous pouvez le voir, une région frontalière qui a de très forts liens avec le Texas. Le Texas, il y a encore 150 ans, faisait partie du Mexique. Donc des liens qui sont familiaux, économiques, etc. Donc qui va donner un caractère particulier aussi à cette migration forcée que nous allons analyser. Le Texas étant l'une des destinations principales de ces migrants. Est-ce que vous m'entendez suffisamment bien ? D'accord. Ok. Donc, je vais tout d'abord parler des dimensions en fait de la migration forcée, qui n'est bien évidemment pas un phénomène exclusif du Mexique, un phénomène global que nous connaissons tous et qui a pris ces dernières années une dimension inédite, bien malheureusement, dirais-je. Stéphane Castells en fait définit la migration forcée ou involontaire comme une migration qui inclut un ensemble de catégories légales ou politiques. Toutes impliquent des personnes qui ont été forcées à fuir de leur foyer et à chercher refuge ailleurs. On tend à les appeler réfugiés, mais celle-ci est en fait une catégorie légale extrêmement restreinte, la catégorie de réfugiés. Et la majorité en fait des migrants forcés fuient pour des raisons qui ne sont pas reconnues par le régime international des réfugiés, et beaucoup sont déplacés dans leur propre pays d'origine. D'accord ? Donc on a des personnes qui restent à l'intérieur des frontières nationales et puis des personnes qui vont à l'extérieur. Donc moi je préfère en fait le terme de migrants forcés, de population déplacée pour parler d'elles. Voyons voir en fait quelle serait la thèse principale en fait de ce papier. C'est que cette migration forcée est la conséquence de la généralisation en fait de la violence au Mexique. Et qu'est-ce que j'entends donc par violence généralisée ? beaucoup quand même. Alors que les autorités mexicaines ont tendance à insister sur le fait que ce sont les narcotrafiquants qui sont les responsables de la vague sans précédent, en fait, de la violence qui sévit au Mexique. Pour ma part, je considère qu'il est important, même primordial, de considérer aussi la violence suscitée en raison de la politique de sécurité publique en vue de combattre le narcotrafic. Donc, on a assisté pendant la dernière décennie, à une paramilitarisation du crime organisé, notamment par le fait que des anciens soldats guatémaltèques caïbiles ont été recrutés par le cartel du Golfe pour créer un groupe de protection en fait, de ces mafieux en fait, qui s'appellent les CETAS en 1999. Une paramilitarisation du crime organisé qui a eu pour réponse en fait, la militarisation de la politique de sécurité publique de la part de l'État mexicain. C'est-à-dire que d'une part, ils ont désigné en fait, des militaires à la tête des corps de police en fait, du pays. Et ils ont entrepris à partir surtout de 2006, mais ils avaient déjà un petit peu commencé à partir de 2004, à réaliser des opérations qu'ils appellent conjointes entre la police et l'armée. Et donc, ce qui a signifié le déploiement en fait, de militaires dans plusieurs régions du pays à partir de la fin de l'année 2006. Donc avec cette politique, on a assisté à une hausse généralisée en fait, des violences. Et lorsque je parle en fait, de violences généralisées, je parle en fait, de cette explosion en fait, des indicateurs en fait, tant objectifs que subjectifs de mesures de la sécurité publique. Donc pendant une période de temps donnée, sur 10 ans, c'est 2006-2016, la période vraiment d'analyse. Donc ces indicateurs, quels sont-ils ? En termes d'homicide, en termes de délits graves, c'est-à-dire le séquestre, l'extorsion, le vol avec violence, mais aussi les violations des droits de l'homme, comme les exécutions extrajudiciaires aux mains de l'armée et de la police, la disparition forcée aux mains de l'armée et de la police, l'usage systématique de la torture, et toutes les agressions et homicides envers les journalistes. Tout cela génère un énorme sentiment d'insécurité. Il y a aussi des indicateurs pour mesurer ce sentiment d'insécurité. Voyons par exemple dans le graphique en haut de la diapositive, on apprécie bien qu'à partir de l'année 1992, il y avait eu une chute du taux des homicides, en fait du nombre d'homicides au Mexique, de façon constante jusqu'à l'année 2006, l'entrée du président Calderón, le changement de la politique de sécurité publique, la militarisation, et là d'un seul coup, poum, c'est reparti. Il y a une augmentation en fait absolument brutale et on voit bien comme les années 2010, 2011, 2012, c'est extrêmement impressionnant en fait le nombre d'homicides et en fait en 10 ans on a, j'aime pas le terme accumulé, mais plus de 100 000 morts en fait au Mexique, ce que l'on n'avait pas vu depuis bien évidemment la période de la Révolution en fait pour nous. On a aussi 30 000 personnes qui sont portées disparues, dont un nombre indéterminé aux mains de l'armée et des forces de l'ordre. On est en face d'une crise des droits de l'homme sans précédent. Comment ? Ouais, 2006 en fait. Voilà, c'est ça. On est face à une crise des droits de l'homme en fait sans précédent, avec une forte hausse des plaintes contre les forces de l'ordre pour violation des droits de l'homme de toutes sortes, avec de très graves attaques contre la presse. Depuis l'année 2000, on a plus de 100 journalistes en fait qui ont été tués. 20 sont portés disparus et il y a eu notamment des attentats en fait, contre la presse, bon, on en a dénombré 46 en fait il y a un an. Donc tout cela a généré bien évidemment un profond sentiment d'insécurité parmi la population et c'est la raison principale des migrations forcées depuis le Mexique, interne ou externe en fait au Mexique, qui n'a pas eu pour conséquence seulement la migration forcée, mais c'est quelque chose qui mine profondément en fait la confiance envers les autorités, bien évidemment, qui sont aussi rendues responsables de cet échec, mais aussi de populations qui sont stigmatisées. Donc il y a des populations qui vont être présentées en fait comme des boucs émissaires. C'est notamment le cas des jeunes hommes dans les quartiers populaires qui sont considérés comme particulièrement dangereux. Ces populations qui éprouvent en fait des sentiments d'humiliation et qui recherchent aussi à être reconnues par des voix pas non plus légitimes. Donc on est dans un contexte social particulièrement difficile à la suite en fait en conséquence de cette politique de sécurité publique que l'on appelle de guerre contre les drogues. Alors c'est un petit peu bougé là, c'est bon, tant pis. quelques informations, on va dire, quantitatives et aussi géographiques concernant ce phénomène de la migration forcée au Mexique. Il faut tout d'abord savoir que c'est un phénomène qui n'est pas reconnu par les autorités mexicaines, hein, qui se gardaient bien de reconnaître qu'il y ait des gens qui fuient en fait leur région comme conséquence, hein, de cette militarisation et des combats, hein, dans cette guerre contre les drogues. L'an dernier, la Commission nationale des droits de l'homme en fait, au Mexique a présenté un rapport en mai 2006 sur le déplacement forcé. Donc c'est déjà un premier pas qui oblige en fait, les autorités à le reconnaître, mais ils n'en sont toujours pas encore là. Hein. On avance dans ce sens, on n'est toujours pas encore là. En ce qui concerne les organismes internationaux, le Conseil norvégien pour les personnes réfugiées avec l'IDMC qui se charge en fait de mesurer les populations déplacées en fait dans le monde entier, reconnaît qu'il y a 287 000 personnes qui sont déplacées internes au Mexique, c'est-à-dire à l'intérieur des frontières, hein, on ne parle pas des personnes qui sont parties à l'extérieur du pays. On a aussi des chiffres grâce à une enquête qui a été faite par, on va dire, l'INSEE mexicaine, l'INEFI, où on voit que parmi les personnes qui ont migré, un pourcentage des personnes qui ont migré d'un État à un autre dans le Mexique ont fait pour des questions de violence et d'insécurité. Sur cette carte, on voit bien que les États dans le nord du Chihuahua, par exemple, et du Tamaulipas, hein, c'est des deux États où il y a eu des taux très élevés en fait, de personnes qui ont migré, qui ont changé de résidence d'un État à l'autre, en raison de l'insécurité et de la violence. Le Chihuahua, c'est 30% en fait, des migrants sont partis pour des questions liées à la violence. Et dans le Tamaulipas, c'était 27% entre 2009 et 2014. On se rend bien compte que c'est un phénomène qui existe, qui était répertorié, on va dire, par cette enquête dans presque tous les États, hein, de la fédération mexicaine. Donc les États où se situe l'étude en question, ce sont ces trois États en fait, du nord-est que l'on voit en haut. Et donc je vais vous donner quelques informations, on va dire, sur la façon dont j'ai travaillé. Donc je suis anthropologue et j'ai fait du travail de terrain sur une période qui a débuté en mars de l'année 2015 et qui s'est achevée en juin de l'année 2016. J'ai fait une ethnographie multilocale, c'est-à-dire que je me suis déplacée dans les endroits où les migrants se sont même déplacés, où ils se sont réinstallés, hein, où ils ont fui. Avec quelques personnes qui sont rentrées chez elles, je les ai revues aussi quand elles étaient rentrées chez elles. Je n'ai jamais fait, à vrai dire, un terrain aussi vaste de par son amplitude géographique. C'était quelque chose d'assez nouveau pour moi. Et ça a quand même été une étude assez considérable et fatigante. J'ai quand même fait 76 études de cas. Et j'ai réalisé en fait des entretiens semi-structurés, hein, avec des grilles d'entretien avec ces populations, aussi avec des acteurs clés d'ONG ou des avocats, tant au Mexique qu'au Texas. Et j'ai aussi visité des villages d'origine de populations en fait déplacées. Et ça a été quelque chose de très important parce que j'ai pu comprendre d'autres dynamiques que je n'aurais pas vues si je ne les avais pas visitées en fait. Donc on voit au niveau des types de cas, il y a 25 cas de personnes qui sont déplacées internes, qui sont restées en fait à l'intérieur du Mexique. Il y a 36 personnes qui se sont, je vais dire, réfugiées à l'extérieur, pour qu'on se comprenne. Hein. Ce sont ceux qui sont plutôt partis au Texas, mais aussi il y a deux cas, c'est le Canada et Espagne, et ce que j'appelle des migrants immobilisés à l'extérieur, c'est-à-dire des personnes qui en général étaient au Texas ou dans des grandes villes du Mexique, qui avaient migré avant toute cette époque de militarisation, et qui du coup, en raison de l'insécurité, ne pouvaient plus rentrer chez eux, en raison en fait de l'insécurité régnante, donc ils étaient immobilisés, il n'était plus possible en fait de rendre visite à leur famille qui était dans les villages. La moitié sont des cas urbains, 40 cas, 36 d'origine rurale, donc on a à peu près du 50-50. Voyons voir donc d'où sont parties ces personnes et où sont-elles arrivées. En vert, le vert le moins clair, ce sont les lieux où les personnes en fait se sont déplacées, où elles se sont réinstallées, d'accord. Et en rouge, ce sont les lieux de départ, hein, d'où elles ont dû partir en raison des questions d'insécurité. J'ai choisi donc la couleur orange pour parler des régions d'origine des migrants qui sont immobilisés, hein, qui étaient donc déjà partis avant ces questions d'insécurité, mais qui du coup après ont arrêté de rentrer chez eux. Et eux, ils sont installés dans les endroits qui sont couleur vert plus clair. D'accord ? Comprenez ma carte.
J'ai bien compris, orange ?
Orange, ce sont les régions d'origine des migrants immobilisés, c'est-à-dire les personnes qui étaient déjà parties, qui étaient migrantes avant l'insécurité. Rappelons que c'est une région frontalière avec une très grosse circularité, en fait, hein, on va dire, des migrants. Et avec la vague d'insécurité, ces personnes, par exemple, qui étaient au Texas ou en Oregon ou dans la ville de Monterrey, ont arrêté de rendre visite, en fait, aux membres de leur famille qui étaient dans des zones rurales en raison de l'insécurité. Donc, ils étaient immobilisés, on va dire, dans leur destination migratoire. D'accord ? Ça, c'est quelque chose que j'ai compris en rendant visite, en visitant les villages qui expulsaient de la population pour des questions de violence. D'autres questions là-dessus ? D'accord. Donc, voyons voir quelles sont les raisons précises, les raisons qui sont à l'origine de leur fuite, de ces cas de figure, en fait, en particulier. Moi, je me concentre donc que sur les personnes, en fait, qui sont parties au Texas pour cette présentation. Je ne veux pas du tout parler des gens qui sont partis à l'intérieur du Mexique. Hein. Il y a quatre raisons, et la plus importante, en fait, c'est pour 55% des gens, c'est une réaction de victimisation, c'est-à-dire qu'ils ont fait l'objet de séquestres, d'extorsions, ils ont reçu des menaces d'extorsion, ou alors un des membres de leur famille a été est porté disparu ou a été assassiné. Donc ce sont vraiment des victimes, en fait, directes. Il y a aussi un quart des personnes, 27%, qui ont été le témoin de violences armées dans l'espace public, par exemple d'affrontements, le blocage de routes. Vous pouvez voir une image, en fait, ça c'est dans un contexte urbain, ou aussi d'homicides, donc qui ont eu peur d'être victimes, hein, dans l'espace public, et qui sont partis immédiatement après cet événement traumatique. Ou il y a, pour 17% des personnes, ce sont des personnes qui ont assisté au séquestre d'amis ou de collègues, ou parce qu'il y avait des pratiques d'extorsion dans leur milieu professionnel, ils ont senti qu'ils étaient vraiment sur le fil, qu'ils pouvaient être, en fait, une prochaine victime, hein, c'était chaque fois plus près d'eux, et donc ils sont partis. Et enfin, il y a un cas d'une personne qui a été mise au chômage parce que son employeur a été victimisé et donc a dû fermer son entreprise. Donc c'est une conséquence directe, en fait, et lui, il a dû partir pour chercher du travail ailleurs. Voilà. Quelque chose d'intéressant à faire et qui éclaire particulièrement cette étude, c'est de mettre en relation les catégories socioprofessionnelles des personnes déplacées et leurs destinations. Et on voit bien qu'il existe un lien très clair. En rouge, ce sont les personnes qui se sont déplacées à l'étranger, autant dire le Texas dans presque tous les cas, et en vert, les personnes qui se sont déplacées à l'intérieur du Mexique. Et on voit très bien que les personnes qui sont parties à l'étranger sont des personnes qui ont beaucoup plus de trésorerie, en fait, qui peuvent beaucoup plus... plus de trésorerie, plus d'argent, sont des entrepreneurs, aussi des petits entrepreneurs, des commerçants, agriculteurs et pêcheurs. À la différence des personnes qui ont des revenus à la quinzaine, au Mexique, tous les 15 jours, hein, qu'on reçoit un salaire, donc les gens de la presse, hein, les employés, des cadres supérieurs, et il y a quelques professions libérales aussi, qui, eux, se sont déplacés, en fait, à l'intérieur du Mexique. Voyons voir donc le cas des personnes qui sont parties, en fait, qui ont fui, hein, au Texas, à la suite d'une victimisation directe, parce que 75% d'entre elles ont été victimes de façon directe, d'extorsion, séquestre, etc., ou bien des personnes de leur groupe familial ou professionnel. Ce sont donc, comme on l'avait précisé auparavant, plutôt des entrepreneurs, commerçants et des agriculteurs. Ce sont des personnes qui ont une image, d'ailleurs, profondément dégradée du Mexique et des autorités. Dans les entretiens, c'est très clair. Ils éprouvent, bien évidemment, de la colère, hein, au sujet de la corruption et de l'impunité, en fait, qui règne dans leur pays. Ils en sont victimes. Et en même temps, ils sont aussi conscients, certains le disent plus que d'autres, bien évidemment, que c'est un système qui fonctionne, parce qu'eux aussi font partie de ce système, comme notamment le versement de pots de vin, par exemple, à hauteur de 10% dans les chantiers publics. Hein. Si on veut avoir un chantier public, aux fonctionnaires, il faut l'arroser, donc c'est à hauteur au moins de 10%. Pour eux, se retrouver au Texas, c'est aussi se retrouver dans un espace où la corruption n'est pas légitime. Hein, si, c'est puni. Hein. Il peut y avoir des cas de corruption, c'est pas qu'il n'y en a pas, mais en fait, c'est puni. Ce qu'il faut dire, c'est que tout le monde ne peut pas fuir et s'installer au Texas. Et c'est pour ça, en fait, que ma communication s'appelle « Sauf qui peut ». Voilà. Hein, c'est « Sauf qui peut », c'est ceux, en fait, qui peuvent aussi se rendre, en fait, aux États-Unis. Et on va analyser par la suite deux, on va dire, des ressources que l'on doit pouvoir mobiliser, en fait, pour se rendre aux États-Unis. On l'a bien compris, il y a un aspect de classe sociale et de trésorerie, mais il y a aussi pour les gens qui ont la nationalité américaine, parce qu'on se retrouve, en fait, dans une zone quand même qui est frontalière et où il y a pas mal de personnes qui ont, en fait, la double nationalité. Et tout cela opère dans un contexte où les États-Unis, en fait, n'ont pas de politique d'asile envers les Mexicains qu'ils considèrent être avant tout des migrants économiques. Ils ne reconnaissent pas le fait qu'il y ait une guerre, en fait, que pourtant ils ont bien promue depuis l'époque de Nixon. Donc, voyons voir quels sont les documents migratoires qui ont permis à ces personnes de franchir la frontière internationale. On voit bien qu'il y a deux groupes. Les plus importants, ce sont ceux qui ont un passeport en fait états-unien, et puis les personnes qui ont franchi la frontière avec un visa de tourisme, et qui après ont changé en fait de statut migratoire. Ça, ce sont les plus importants. Il y a quelques personnes comme investisseurs, des demandeurs d'asile avec un visa de travail. Mais vraiment, le premier groupe, c'est le groupe de ceux que j'appelle les frontaliers, los fronterizos, comme on dit en fait au Mexique, pour qui la nationalité est une bouée de sauvetage. Alors là, c'est là où il est important en fait de considérer la situation géographique du nord-est du Mexique, une zone frontalière qui constitue en fait le nord-est du Mexique et le sud du Texas, un espace social transnational. Donc il y a une circularité qui est importante de longue date dans cet espace. Donc on a beaucoup de familles avec des statuts migratoires mixtes et notamment avec des membres des familles qui ont la nationalité en fait états-unienne. Donc quand on a la nationalité états-unienne en étant aux États-Unis, on peut faire par exemple demander à ce qu'un membre de la famille au nom de la réunification en fait l'obtienne, qui vienne depuis le Mexique aux États-Unis et obtienne la nationalité en fait américaine. Donc ça, c'est un vrai recours très important en fait pour ces personnes-là. Et puis il y a aussi une pratique sociale en fait très répandue, c'est d'aller accoucher à la frontière. Les gens croisent la frontière pour avoir leurs enfants aux États-Unis, pour qu'ils aient la nationalité américaine. Ça, c'est quelque chose qui s'est fait de longue date en fait dans cette région. C'est chaque fois plus difficile de le faire, mais on continue en fait de le faire. C'est vraiment une assurance quelque part, et on le voit bien dans un contexte comme celui-ci, comme c'est important. Donc c'est par exemple le cas d'Adriana. Adriana, elle, a grandi en fait à Reynosa. C'est une ville frontalière. De l'autre côté de la frontière américaine, il y a McAllen. Ce sont ces deux espaces, on va dire, de son espace vécu. Elle a la nationalité nord-américaine, comme sa mère qui est aussi binationale, mais elle a toujours en fait grandi du côté mexicain à Reynosa. Elle, dans sa courte vie, elle a à peu près, je crois qu'elle a 26 ans au moment où je fais un entretien avec elle, elle a dû déjà partir trois fois de façon forcée, obligée, dans des conditions dramatiques, en fait, du côté états-unien pour se protéger. La première fois, en 2003, elle est adolescente, je crois qu'elle doit avoir 14 ans, en fait, à ce moment-là. Son père est restaurateur et séquestré. Et lorsqu'il est libéré, traumatisé, bien évidemment, sur le même moment, tous partent ensemble de l'autre côté de la frontière, en fait, à McAllen, où sa mère réside. Ses parents sont divorcés, mais bon, du coup, la maison de la mère, c'est l'endroit, en fait, où ils arrivent tous pour se protéger. Ils sont beaucoup, il y en a qui dorment dans la baignoire, partout par terre. Donc toute la famille, en fait, se retrouve là-bas. Ils vivent pas très longtemps, en fait, à McAllen, parce que son père a un restaurant, il faut s'occuper du restaurant, donc c'est la comptable qui fait des allers-retours, un peu lui donne des instructions, puis vite, ça devient très compliqué, donc le père retourne, et la jeune fille est sommée par ses parents de continuer à vivre du côté américain, alors que c'est pour elle extrêmement difficile, parce qu'elle est coupée, en fait, de tous ses amis à l'adolescence, c'est quelque chose de très compliqué, et qu'elle ne se sent pas bien du tout, en fait, à l'école américaine, pleure constamment pendant la récréation, enfermée dans les toilettes, c'est vraiment ce qu'elle se rappelle. Donc plus tard, elle rentre en fait à Reynosa. En 2008, même situation, cette fois c'est son frère qui se fait séquestrer, malheureusement. Donc ils repartent à niveau tous en fait du côté nord-américain, et elle réussit à négocier, à dormir du côté américain, mais elle a l'école à la frontière. Voilà. Et finalement, elle reprend après une vie normale, on va dire, côté mexicain, en faisant des études supérieures à Monterrey. En 2014, elle se retrouve au milieu d'un affrontement à Reynosa, alors que là, c'est une jeune professionnelle, elle travaille pour une grande entreprise. Et donc, du coup, cette fois-ci, d'elle-même, là, c'est une adulte, en fait, elle décide de s'installer du côté américain. Donc, on voit bien pour cette personne qui a une double nationalité, comme elle, ça a fonctionné, justement, cette nationalité, comme une bouée de sauvetage, en fait, à plusieurs moments, en fait, dans sa vie, dans des moments, en fait, dramatiques, pour se protéger et récupérer aussi émotionnellement. Et on voit bien aussi comme cette question de la nationalité. La nationalité ne veut pas dire appartenance. Elle se sent profondément mexicaine et ce n'est pas parce qu'elle a la nationalité en fait américaine que c'est facile, non, d'aller s'installer de l'autre côté comme si c'était la même chose. Non, ça implique une perte et des ruptures en fait qui sont très difficiles en fait à vivre. Et donc il y a 13 cas comme ça et je peux vous dire qu'à chaque fois c'est très difficile pour toutes ces personnes de se retrouver forcées de partir aux États-Unis, même si c'est une voie de sauvetage. Cela implique en fait une adaptation et des négociations identitaires qui sont difficiles. Alors, on comprend bien que dans ces conditions, en fait, très difficiles au niveau de la sécurité au Mexique, que les Mexicains pourraient arriver aux États-Unis en disant « il y a la guerre, en fait, contre les drogues dans mon pays, je demande l'asile ». C'est vrai que ça paraîtrait assez normal, mais ce n'est pas le cas. Les États-Unis ne reconnaissent pas qu'il y a une situation, en fait, de guerre, en fait, au Mexique, et ne donne pas l'asile aux Mexicains. Donc, voyons voir, par exemple, au niveau des chiffres, le Mexique, pendant de très longues années, ce n'était pas du tout un pays d'origine des demandeurs d'asile aux États-Unis, c'est absolument insignifiant, mais on voit bien qu'à partir de 2010, il passe parmi les 10 premiers pays demandeurs d'asile, et ça n'a fait qu'augmenter jusqu'à temps d'arriver dans les premiers pays. Et on a eu 40 000 demandeurs d'asile quand même mexicains entre 2010 et 2014, ce qui est quand même assez considérable pour un pays d'où n'émanait pas en fait de demande d'asile. Et comment répondent les juges de migration américains? On le voit, les taux en rouge, c'est 1%. Hein, 1% de demandes d'asile en fait qui sont accordées, c'est-à-dire à personne en gros, et qui peut en fait avoir obtenir le droit d'asile aux États-Unis, c'est très peu de personnes. Et pour ça, il faut démontrer donc que la personne fuit. Et là, je lis les textes de la Convention de Genève. En raison de la crainte fondée d'être persécuté pour des raisons de race, de religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, et se trouve hors de son pays dont elle a la nationalité et ne veut pas ou ne peut pas, du fait de cette crainte, se réclamer la protection de ce pays. Donc le problème, c'est toujours, en fait, il y a ce côté de crainte fondée, il faut démontrer cette crainte, et d'être persécuté. Alors ces questions de race, de religion, là ça devient très compliqué. Il n'y a que en fait ceux qui peuvent démontrer une appartenance à un groupe social ou pour leurs opinions politiques qui y arrivent. En gros, ce sont les journalistes. Voilà. Donc moi j'ai pu faire des entretiens en fait avec 3 personnes qui ont demandé en fait l'asile aux États-Unis. 2 d'entre eux en fait l'ont obtenu, un journaliste. Et puis une famille de disparus, une femme et ses 2 enfants, ses 2 filles dont le mari avait disparu à San Fernando, Tamaulipas. Je pense que vous devez connaître en fait ce nom de San Fernando, Tamaulipas, les fosses qui ont été découvertes de migrants d'abord en août 2010, puis en février 2011. Ils ont arrêté de compter à 190, mais moi j'ai des témoignages, j'ai au moins 600 corps qui sont sous terre en fait à San Fernando, si ce n'est plus. Quand cette famille s'est présentée à la frontière, fin février 2011, lorsqu'ils venaient de découvrir les fosses, oui, c'était crédible, que c'était impossible de vivre à San Fernando. Là, c'était crédible, ils ont pu l'obtenir. D'accord ? Quant aux journalistes, je ne raconterai pas les cas, parce que sinon je vais être là pendant 1h15, mais l'un l'a obtenu suite à un séquestre qui était très médiatisé, donc il y avait du matériel qui le démontrait, et l'autre n'a pas obtenu l'asile, mais la juge lui a... offert une protection de la Convention contre la torture et les traitements cruels. Après, pour toutes ces populations, le temps où ils attendent en fait d'obtenir l'asile, c'est très compliqué parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler et cela peut prendre des mois en fait. Des mois, donc c'est un profond sentiment d'incertitude pour toutes ces personnes qui ne savent pas en fait s'ils vont être déboutés, s'ils obtiendront en fait l'asile. Et qui, en général, sur ces 3 cas, dans 2 de ces 3 cas, elles se sont mis à travailler de façon illégale pour subvenir à leurs besoins, parce qu'il n'est pas non plus question pour eux non plus en tant que Mexicains, parce qu'ils sont Mexicains, de demander de l'aide en fait aux États-Unis, parce que c'est comme d'habitude, l'image des Mexicains, c'est celui qui profite du système, donc ils ne veulent pas rentrer du tout dans cette image-là et dans cette situation-là. Alors, qui est bienvenu aux États-Unis? Eh bien, ceux qui ont de l'argent. Donc, ceux qui ont de l'argent, ce sont les personnes en fait qui sont capables en fait d'investir, qui fuient parce que voilà, les entrepreneurs, les commerçants, donc qui ont de la trésorerie, et qui du coup en fait peuvent réinvestir cet argent en fait dans le territoire américain et au Texas, surtout le sud du Texas, qui est une région économiquement profondément déprimée, qui a énormément souffert de la crise des subprimes en 2008, et même du coup, il y a eu des appels aux investissements qui ont été faits par la municipalité de McAllen en 2012. Là, je ne vous le montrais pas, mais il y a une vidéo de YouTube. Voilà, l'annonce qui a été faite. Bienvenue, les investisseurs, les Mexicains. Si vous avez 500 000 dollars, vous pouvez venir. Comme ça, on vous donnera la résidence. Et puis, vos enfants pourront assister dans les universités américaines comme si c'était comme des citoyens américains. Bon, très peu de gens, au bout du compte, peuvent le faire, hein, 500 000 dollars. Ça, c'est la EB-5, mais il y a aussi la E numéro 2, en fait, hein, avec un investissement moindre pour ouvrir, par exemple, un restaurant, ou l'ouverture d'une filiale. Ceux qui ont une entreprise aux États-Unis, qui peuvent rouvrir une filiale, en fait, aux États-Unis, peuvent aussi... qui ont une entreprise, en fait, au Mexique, et qui ouvrent une filiale, en fait, aux États-Unis, peuvent avoir le visa L1. Donc c'est là, c'est dans ce contact-là, moi j'ai pu faire des entretiens à plusieurs hein, d'investisseurs en fait, qui ont par exemple, y en a un qui a ouvert en fait une filiale hein, d'une entreprise mexicaine en fait aux États-Unis, d'autres des filiales, d'autres qui ont investi en fait dans un nouveau business en fait on va dire, et ce qui est assez frappant. C'est de voir comme se créent des quartiers en fait de riches Mexicains dans cette région profondément déprimée quand même du sud du Texas. Hein, ces quartiers résidentiels fermés, et aussi à San Antonio dans la zone nord en fait de San Antonio. Donc il y a un contraste hein, aussi assez impressionnant dans cette région là. Donc un cas très intéressant, c'est celui en fait d'une riche famille en fait de l'aire métropolitaine en fait de Monterrey. Où là, on voit bien que ça fonctionne comme une famille d'élite qui s'organise autour de l'entreprise familiale avec le patriarche qui est le directeur de la société, hein, le président de la société, ses fils, les juniors, hein, qui participent tous en fait comme des directeurs aussi à l'intérieur de la société. Suite à un séquestre, ils sont séquestrables, il met toute la famille en fait il y a d'abord un premier mouvement dans la métropolitaine pendant 3 mois. Elle se cache dans une maison, le temps de préparer une stratégie la migratoire aux États-Unis avec l'aide d'avocats en fait américains pour réouvrir une filiale au Texas, faire venir tous les fils comme des directeurs, donc avec certains visas, lui comme investisseur, les femmes de ses fils et les petits-enfants comme des dépendants. Ce sont 15 familles qui sont en fait parties s'installer à San Antonio en fait à ce moment-là à la suite d'un séquestre. Donc ça, je l'ai observé. J'ai 3 cas comme ça hein, de très grandes familles en fait d'entrepreneurs qui du coup sont tous partis parce qu'ils se savent séquestrables. Ils ont bien évidemment très peur. Hein. On peut voir ici par exemple des cadres de vie de ces populations en fait un peu plus aisées, bien plus aisées. Hein. Donc ces centres ensembles résidentiels fermés, l'importance bien évidemment des églises catholiques hein, comme point des endroits de socialisation où ils se retrouvent, les écoles catholiques privées qui sont d'ailleurs assez chères. Hein, et ces restaurants aussi où les femmes se retrouvent, hein, le repas traditionnel entre femmes une fois par semaine de la haute société se fait aussi de ce côté-là, dans des restaurants aussi de personnes déplacées depuis le Mexique. Après, tout le monde n'arrive pas à ouvrir une filiale hein, aux États-Unis, et il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs, de petits entrepreneurs et de commerçants qui cherchent hein, à continuer à faire vivre leur entreprise, et notamment par exemple le cas d'exploitants agricoles, hein, ce sont des exploitants agricoles du sorgho, hein, ce sont de très très gros exploitants du sorgho en fait dans le Tamaulipas. Là ce qui est intéressant c'est qu'il y a cette comme mise à l'abri de la famille en fait au Texas, hein, avec différentes stratégies, et les hommes font les allées-venues en fait dans le village d'origine, dans ce cas-là en particulier donc San Fernando, donc brave, on va dire, l'insécurité qui règne hein, sur les routes du Tamaulipas, qui sont très honnêtement extrêmement dangereuses, hein, avec des barrages hein, de délinquants ou des forces de l'ordre, tout simplement. C'est vraiment dangereux, en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont disparu sur ces routes-là, qui font des allers-retours pour s'occuper, en fait, de leur exploitation agricole. Et donc, on voit bien... comme il y a aussi des questions de masculinité, hein, c'est-à-dire l'homme qui continue à être à la tête hein, vraiment de l'exploitation agricole, de continuer à être le pourvoyeur, qui met à l'abri en fait sa famille en fait au Texas, un peu cette l'idée du chasseur, moi je parle en fait du chasseur qui est toujours un peu derrière sa proie, et qui fait donc ces allers-revenus en fait qui sont nécessaires hein, pour assurer les revenus pour vivre. Hein. C'est dans ce secteur-là qu'on a eu un très fort taux de retour en fait. Hein, tous ces entrepreneurs qui ont essayé hein, comme ça de mettre la famille à l'abri en fait au Texas, en faisant des allers-retours, Généralement, les profits dans les sociétés ont chuté. Ça a été très compliqué. Et finalement, en fait, ils sont tous rentrés pour finalement continuer à assumer la direction de la société et chercher en fait à les remonter. Un disait, me da más miedo no tener dinero para comer mañana. J'ai plus peur de ne pas avoir d'argent pour manger demain. Voilà. Donc il fallait en fait être là. Sur ces expériences en fait des personnes qui sont parties en fait s'installer au Texas, il y a deux phénomènes qui me semblent très importants, très intéressants en fait à discuter. D'abord un phénomène de déclassement parce qu'il y a en fait pour beaucoup de personnes il y a une perte de la situation avec la migration forcée qui va se manifester en fait dans le style de vie qui est très difficile en fait à vivre pour de nombreuses personnes, mais aussi une dislocation en fait en termes de genre. Là je le laissais en fait un peu entendre en ce qui concerne les hommes. Voyons ce qu'il en est du déclassement. Par exemple, le cas de Letty et André, c'est un couple de Reynosa. Ils avaient en fait une quincaillerie, donc des commerçants. Ils échappent in extremis à une tentative de séquestre. Ils sont profondément traumatisés, mais vraiment, ils sont traumatisés pendant très longtemps. Ils partent tout de suite au Texas avec leur visa de touriste, leur passeport mexicain. Se cachent, ont vécu dans l'obscurité pendant assez longtemps au Texas. Une famille qui a un peu pitié d'eux, en fait, leur permet de vivre dans une caravane. Ils n'avaient aucune trésorerie, aucune. Donc ils vivaient bien, mais ils n'avaient aucune trésorerie. Ce qu'ils avaient comme argent, ils l'avaient réinvesti dans des petits terrains. Et donc lui, il se retrouve à jardinier. La femme, l'emploi classique des Mexicains, des couches populaires en fait aux États-Unis. La femme à faire de la cuisine de temps en temps. Donc vraiment se retrouver dans les classes populaires en fait américaines. La peur au ventre, très clairement, pendant très très longtemps. Et voilà, donc une situation très compliquée. Eux, ils ont réussi, ça fait des années quand même qu'ils sont partis, je crois que c'est en 2005, ça fait 11 ans, petit à petit, en fait, à remonter leur peur, remonter un peu leur situation. Ils ont réussi à vendre un terrain qu'ils avaient à Reynosa pour s'acheter en fait une maison, mais ils vivent comme des illégaux en fait aux États-Unis, ont aussi la peur d'être déportés. Et ils attendent que leur fille, qui est un petit copain en fait nord-américain, se marie et eux pourront du coup obtenir, c'est pas du tout un mariage arrangé, mais eux, ça les arrangera bien. Au niveau de leur situation en fait migratoire. Donc ça c'est un cas. J'en aurai plusieurs en fait à vous raconter, mais je pense que je ne vais pas plus détailler parce que je pense que ça va faire un petit peu. J'y suis. On a aussi le phénomène de la dislocation en fait en termes de genre. Je laissais comprendre dans la diapositive précédente la difficulté d'être un pourvoyeur, c'est quelque chose de très compliqué pour les hommes, de très très compliqué. D'un seul coup, ils se retrouvent en fait au Texas à ne rien faire avec leur femme entre quatre yeux pendant toute la journée. Ça, c'est très compliqué aussi, alors qu'ils ont eu l'habitude d'être tout le temps à être dans leur société. Du coup, avoir un certain prestige social lié à leur fonction, leur rôle en tant que pourvoyeur. Et donc il y a énormément d'expressions en fait, de dépression en fait des hommes, des hommes entrepreneurs, commerçants, etc. Même les exploitants agricoles. Une femme me disait il en a perdu toutes ces les marques qu'on a sur les mains, les scales, je sais pas comment on dit ça en français.
Les callosités.
Ouais. Et que c'était. C'est l'image même. On perd aussi toute sa masculinité avec cette transformation du corps. En ce qui concerne les femmes notamment qui viennent des secteurs aisés au Mexique, cela fait partie en fait de leur vie d'avoir toujours des travailleuses domestiques, souvent indiennes d'ailleurs. Moi, mon ancienne recherche était sur ce thème-là, je connais bien. Et c'est quelque chose de très important dans le style de vie. Et elles se retrouvent en fait à faire leur travail domestique en fait au Texas. C'est pas rien. Alors au début, elles ont un peu pris à avoir le corps, on va le faire. Et très vite, c'est devenu quelque chose de difficile en fait à vivre aussi pour elles. Nous, on en mesure assez difficilement l'importance en tant que Française, parce que bon, c'est quelque chose qui fait partie en fait, qu'on assume en fait assez bien. Mais pour elles, c'est très très compliqué. Et dans les retours au Mexique, certaines en parlaient comme libérées de. Du coup, de ne plus avoir à faire toutes ces tâches domestiques quand elles étaient finalement rentrées chez elles. Pour les femmes aussi qui, elles, avaient des carrières professionnelles, par exemple médecins, professeurs des universités, et qui ont dû partir avec toute leur famille aux États-Unis, leurs diplômes n'ont pas été reconnus. Donc, elles se sont retrouvées femmes au foyer. Pareil, quelque chose de trop difficile, c'est vraiment une interruption de leur carrière professionnelle, et aussi elles avaient, c'était comme cette réussite comme femme du coup, hein, qui travaillait dans une société très machiste, d'un seul coup c'est comme un grand retour en fait en arrière, quelque chose de très difficile en fait à vivre. Moi j'ai vu une femme médecin qui du coup était reléguée à des tâches d'infirmière, et dirigée par des personnes dont elle avait bien plus de connaissances en fait, et ça ce sont aussi des expériences de dislocation, donc difficiles. Le dernier point en fait de mon intervention a à voir avec l'interruption donc de la circularité. Ce sont ces migrants immobilisés dont je vous ai parlé en fait au départ. Je vais le présenter d'une façon assez brève. Comme je vous le disais, en fait, dans le Nord-Est, il y a toute une série de villages, hein, où toutes les familles en fait ont des membres, toutes les familles ont des membres de leur famille, qui sont en fait migrants, hein, aux États-Unis, qui ont l'habitude d'aller travailler plusieurs mois de l'année aux États-Unis, reviennent, hein, souvent pendant la période hivernale, etc. Et à partir de l'année 2010, hein, où vraiment il y a eu une pique de la violence et de l'insécurité, les membres de la famille ont expliqué à toutes les personnes, tous leurs membres de la famille qui étaient en fait du côté états-unien ou même dans les grandes villes du Mexique, qu'ils ne viennent plus. Et les seules images en fait qui ont circulé à cette époque, c'était des images d'affrontements, des images en fait d'homicides, de massacres. Enfin, c'est vraiment des choses en fait qui étaient terrifiantes. Donc, des messages qui alimentaient vraiment en fait le sentiment de peur, hein, des populations. Donc du coup, ces villages se sont retrouvés complètement isolés, n'ont plus reçu en fait toutes ces visites qu'ils avaient l'habitude de recevoir. Tous les week-ends, les gens qui habitaient pas loin de la frontière du Texas avaient l'habitude de venir, avaient un terrain, peut-être s'étaient fait un peu une piscine pour en profiter, ou avaient des quads, hein, pour jouer dans la campagne, arrêtaient de venir. Pendant les grandes vacances, ou les vacances de Pâques, les vacances de Noël, ils ne sont plus venus. Et là, c'est en fait une transformation quand même de fond, hein, dans cette région-là, où d'un seul coup, il n'y a plus eu tant cette partie affective importante, hein, revoir les gens qu'on aime en fait d'une façon régulière, mais aussi l'aspect économique, parce qu'en fait, tous les commerces vivaient aussi de la venue en fait de ces personnes-là qui sont interrompues. Donc j'ai plusieurs témoignages en fait de personnes qui sont par exemple maintenant au Texas, qui ne vont plus depuis très très longtemps en fait dans leur village, comme à Los Ramones, qui sentent une profonde nostalgie aussi, hein, par rapport à cette espèce de temps doré où ils pouvaient se rendre, hein, dans leur village d'origine et éprouver en fait cette liberté dans l'espace, hein, je veux dire, entre les uns et les autres, la vie en fait en famille. Donc on a vu en 2015 un timide retour, parce que les conditions de sécurité se sont améliorées quand même pas mal dans le Nuevo León et dans le Coahuila, pas du tout dans le Tamaulipas, mais rien n'est revenu comme avant. Il y a un peu plus de gens qui reviennent, hein, il y a un petit peu plus de confiance pour revenir, mais cela n'a rien à voir avec comme les choses étaient auparavant. Donc pour conclure, ce que je souhaite dire, dire d'abord que, en ce qui concerne la condition des déplacés, on est toujours en face d'un phénomène qui n'est pas reconnu ni par les autorités mexicaines, bon, ni par les autorités états-uniennes. Hein. Donc c'est quand même un phénomène qui existe maintenant depuis un certain temps. Mon étude, c'est 2006-2016. Dans le Nord-Est, c'est très important, au moins depuis 2008. Et on n'arrive toujours pas à avoir une reconnaissance en fait, hein, des autorités comme quoi c'est en train de se passer. Ça a à voir avec le fait qu'il y a une législation internationale, et il y a donc des droits, hein, pour les populations déplacées, qu'il faudrait mettre en place, hein, je veux dire aussi des indemnisations, et puis une reconnaissance de l'échec tout simplement de la politique en fait de sécurité publique, et il n'en est bien évidemment pas question par le gouvernement. On a des populations qui sont rentrées, surtout en fait sur Monterrey. C'est plus là qu'il y a eu en fait un retour, mais par exemple dans le Tamaulipas, la situation est toujours extrêmement préoccupante, il y a toujours énormément d'affrontements, c'est un état en fait toujours très très difficile, il n'y a pas du tout de conditions favorables au retour des personnes, donc on est dans la même situation, hein, et on continue à avoir des déplacements forcés de façon récurrente en fait. Alors, si sous la présidence d'Obama, les personnes qui n'étaient pas en règle hein, au Texas avaient déjà peur de la déportation, c'est très important dans les témoignages en fait, ce que j'ai pas vraiment eu le temps d'en parler, mais c'est quelque chose d'assez fort. Il faut savoir quand même qu'Obama, en France, on l'ignore, mais c'est quand même sous l'administration d'Obama qu'on a le plus déporté de Mexicains quand même en retour vers leur pays. Donc, bon, Trump, oui, ça fait très peur, mais n'empêche que depuis l'administration d'Obama, il y a eu énormément en fait, de populations déportées en fait, hein, en retour vers le Mexique. Donc là, avec Trump, ce n'est qu'une plus forte incertitude hein, encore qui est là avec ce renforcement des frontières. Donc bon, nous allons voir, mais évidemment que l'avenir est loin d'être des plus gais. Et en ce qui concerne le Mexique, depuis quelques semaines, en fait, il y a une proposition de loi de sécurité intérieure hein, qui finalement vise à ce que l'armée qui devait être dans la rue de façon exceptionnelle, y soit en fait d'une façon permanente. Donc on a une dérive autoritaire qui est très grave en fait hein, au Mexique depuis donc une dizaine d'années, et ils cherchent à faire en sorte que ce soit en fait la militarisation soit en fait, on va dire, réglementaire hein, de par la loi. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et j'attends avec beaucoup d'enthousiasme vos commentaires.